leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ toute cette semaine, Calais, printemps 2016, émission numéro 3.
Il y a vraiment migration lorsque c'est des peuples entiers qui, condition nomade, passent à la condition sédentaire, mais chez les autres ou dans un endroit nouveau. Alors, quelquefois, nous sommes immigrés, d'autres fois, nous sommes émigrés. L'Académie universelle des cultures a choisi délibérément le mot « migrant » pour couvrir les deux aspects, soit le point de vue de celui qui se dit quelquefois envahi par les immigrés, ou l'émigré qui se perçoit souvent comme mal reçu.
Alors, en ce moment même, nous sommes dans une petite maison, une petite chambre. Est-ce que vous pouvez expliquer où on est ? On est chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ?
Bonsoir avant tout. Vous êtes dans la jungle et vous êtes chez vous et chez nous. C'est la même. Ça, c'est la jungle, ça, c'est chez nous, où on vivait, où on partage tout avec tout le monde, où on est tranquille, on voit comment on est chez nous, avec nos familles, nos frères, sœurs. Bah, aujourd'hui, on est de différentes nationalités dans la jungle qu'on vivait. Bon, on se voit tout comme la même, comme on est de la même pays, de la même famille. On était des amis, mais on est devenus comme des frères et sœurs. On vit tranquille, une vie sociale. Et on essaie de comprendre l'un de l'autre.
Alors, vous êtes là, vous, Hamid, depuis combien de temps ici ?
Bah, quant à moi, j'ai que 3 mois, maximum 3 mois, dans la gang.
Et c'est vous qui avez fait cette chambre-là, qui l'avez décorée ?
Bah, à propos de ces chambres, c'est pas moi que j'ai construit ça, c'est un ami. Il a construit ça et maintenant il était logé dans un foyer. Et c'est moi que j'ai vu ici pour le moment.
Vous avez pris sa place parce que lui est allé vivre dans un foyer.
Dans un foyer. Et je l'ai remplacé.
Il vous a prêté sa chambre.
Oui. Et donc, pour toujours, j'espère.
Et pour toujours.
Oui.
Vous voulez toujours vivre ici dans la jungle?
Bien sûr, oui. J'aimerais bien continuer à vivre dans la jungle.
Pourquoi?
Bah, dans la jungle, aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens tranquille. J'ai vu dans une grande joie. Avec des amis de différentes nationalités. On est devenus des sœurs, frères. On prend soin l'un de l'autre. Je me sens comme je suis, au milieu de ma famille.
Vous êtes parti quand de votre propre pays et pourquoi ?
Bah, j'ai quitté ma propre pays, ça fait 2 ans. À propos de la guerre, de la merde. J'étais en Libye. J'ai fait 1 an en Libye pour travailler, pour trouver la moyen des possibilités pour entrer en Europe.
Et vous êtes votre pays, c'est
le Soudan. je pars de la communauté soudanaise. Je suis un Soudanais.
Nous allons écouter la bande-annonce de Johnny McDogg sur les enfants soldats en Afrique de Jean-Stéphane Sauvert, qui est sorti le 26 novembre 2008.
When are you been fighting the
war? Too small. Start fighting to our 10. I start fighting.
Where was your name before?
Où avez-vous vécu votre enfance et votre adolescence?
Au Soudan, exactement au Darfour, au Soudan.
Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance?
J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, de ma famille, de mon propre pays. Maintenant, je me trouvais en France, en Europe, loin de ma famille, loin de mon pays.
Ça a été une décision personnelle de partir ou c'est la famille qui a décidé avec vous que vous, parce que vous étiez jeune et en bonne santé, vous pouviez partir?
Non, c'est pas ma décision. C'est ma famille qui m'ont obligé de quitter le pays.
Obligé?
Oui.
C'est-à-dire?
À cause de la guerre, chez nous, une fois, les jeunes, tu atteins 18 ans, les gouvernements ou les rébellions, les terroristes, ils t'obligent d'être dans l'armée pour combattre entre vous, l'un de l'autre. J'ai fait l'armée presque 6 ans, j'étais dans l'armée.
Alors vous êtes rentré dans l'armée, vous étiez un enfant soldat alors?
Oui. J'étais un enfant soldat. Et dernièrement, ma famille a décidé de m'obliger pour quitter le pays, pour construire une nouvelle vie, pour vivre en paix, en sécurité, mieux que de vivre dans l'enfer, dans la merde. Et je suis obligé de les écouter. J'ai quitté le pays.
Et quelle mission avez-vous accomplie quand vous étiez un enfant soldat?
J'ai combattu mes frères, mes sœurs. J'ai commis des milliers d'erreurs d'être dans l'armée. J'ai fait souffrir des milliers de mes frères et sœurs. On s'est combattu entre nous-mêmes. Il y a des milliers de morts par jour. J'ai vécu que la merde et c'est tout. Et enfin, ma famille m'a obligé de quitter ce monde pour aller construire une nouvelle vie, une vie de paix, sécurité, sociale. Et je suis obligé parce que j'ai vu que c'est la meilleure solution. Et j'ai décidé de quitter le pays, j'ai quitté le pays. J'étais en Libye aussi, c'est la merde. Il y a des guerres partout, des morts partout, des milliers de morts par jour à cause des terroristes, Daesh, gouvernement, mais n'importe quoi. En fait, j'ai décidé d'être en Europe. J'étais en Europe. J'ai fait l'Italie. J'étais en Allemagne. Et enfin, je m'ai trouvé en France, ça fait que 3 mois. Et j'étais trouvé dans la jungle et j'espère qu'aujourd'hui, je vois comme je suis au milieu de ma famille. Je suis en sécurité, je suis en paix, je suis tranquille. que j'aimerais bien continuer à vivre dans la jungle.
Là, on entend l'appel de la mosquée. Est-ce que vous êtes croyant?
Oui, je suis croyant. Je suis mosquée. J'ai part de la religion musulmane.
On a vu que donc dans cette partie de la jungle de Calais qui a été détruite la semaine dernière, il restait très peu de maisons. Mmh. Il reste votre chambre, où nous sommes là en ce moment. Mmh. Mais il reste aussi une petite mosquée avec des tentes en plastique. Vous y allez, vous, Hamid?
Oui. Ben, on est obligé. Ils ont tout rasé. Ils ont effacé tout. Bah, quant à moi aujourd'hui, je vis à celle, j'ai que Pierre-Riff, qu'il vit avec moi. Les autres de mes amis, ils sont obligés de quitter sur la zone nord. Ils ont quitté dans des containers. Parce qu'il n'y a aucune place. Ils ont tout rasé, ils ont tout effacé.
Alors en ce moment même, les bulldozers sont en train de continuer à planir le terrain. C'est un paysage complètement dévasté, mais vous, vous avez décidé de continuer à vivre dans ce paysage dévasté. Pourquoi?
Quant à moi aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ici et je ne vais plus quitter. Je ne vais plus déplacer pour aller ailleurs.
Parce que vous en avez assez de déplacer.
Oui.
Et vous déplacer.
Je suis fatigué de déplacer partout à chaque moment. Et j'ai décidé enfin de vivre ici. Quoi que ça soit, j'aimerais bien vivre ici. Parce que ici, je me sens à l'aise, je me sens tranquille, je me sens en sécurité. Mais il y a que les problèmes. Les politiciens aujourd'hui ne nous laissent pas à l'aise. Ils nous dérangent chaque jour, chaque fois. La CRS, la politique, de n'importe quoi, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on a besoin est que de vivre en paix, à l'aise, en joie. On a besoin de la joie, du paix, de la liberté. Mais ils ne veulent pas nous laisser vivre à l'aise.
Donc ici, c'est chez vous, c'est une toute petite chambre,
oui.
Mais très jolie, très très jolie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dentelle partout, vous avez mis au-dessus du plastique des tissus de dentelle, vous avez mis sur les matelas des beaux tissus, sur les tissus, il y a des inscriptions,
oui.
Il y a une photo, des bougies, une petite table. Mm-hmm. Vous dormez où? Là?
Oui, je dors là. Et j'ai encore une petite chambre, tout près à la voisine de cette chambre. J'ai des grands lits et parfois je dors avec Pierre-Riff. Il passe.
Pierre-Riff, c'est votre
avec
ami
moi. Oui.
Qui est à côté de vous?
Oui, qui est toujours à côté de moi. On essaie de partager tout avec lui. Aujourd'hui, moi je suis un Soudanais, je suis un Africain, il est un Français. Mais avec tout ça, on s'est connus depuis, ça fait presque 2 mois. Et aujourd'hui, on se respecte l'un à l'autre. Je les prends comme un petit frère, pas seulement un ami. On prend soin l'un de l'autre. On est devenus des frères aujourd'hui. Et aussi, le plus essentiel, il me prend comme son grand frère. Il a décidé de vivre avec nous ici, dans la communauté soudanaise, dans la gang.
Alors, il paraît qu'on vous appelle Bambino, vous.
Oui, parce que chez
c'est
nous...
C'est vrai?
Oui.
Pourquoi Bambino? C'est le petit?
Oui, c'est le petit.
Vous avez quel âge, vous?
19 ans.
Comment vous êtes arrivé ici?
Je suis arrivé
Et comment vous avez connu Hamid?
Moi, je suis arrivé ici en septembre par une manifestation justement de soutien aux réfugiés. Donc au début, je suis arrivé avec une idée globale de la jungle, avec l'envie de rencontrer toutes les nationalités. Après, j'ai rencontré Julie, après j'ai rencontré Numéli et Hamid justement après. Hamid, quand je suis arrivé, parlait français, ce qui m'a beaucoup aidé puisque j'avais du mal à me faire comprendre avec les tribus, ce qui m'empêchait pas d'être poli et d'être... de respecter les autres, de montrer qu'il y avait un respect qui était à trouver ici, qu'on a trouvé l'un envers l'autre assez facilement justement. Après on a développé ça, moi je suis venu, ils savaient que le week-end ils pouvaient m'attendre, que je serais là. Je suis venu tous les week-ends je passais avec eux. Après j'ai rencontré des professeurs, j'ai demandé comment ça se passait à l'intérieur, des avis de personnes plus âgées que moi, qui ont plus d'expérience, pour rester aussi... neutre sur mes projets que j'essaye de faire avec eux.
Neutre, ça veut dire quoi? Vous êtes venu, vous vouliez aider les personnes qui étaient
mais tout en,
dans une situation plus difficile que la vôtre.
Ouais, que tout le monde puisse comprendre l'un de l'autre en fait, de n'importe quel endroit, de n'importe quelle ethnie, et regrouper ça justement en faisant des projets, que ce soit artistique, culturel, n'importe quoi.
Donc vous apprenez d'Hamid et vous apprenez à Hamid aussi? Dans les deux sens, qu'est-ce que vous lui apprenez?
Des choses simples aussi, comme Hamid l'a dit, on a un respect mutuel, on est souvent ensemble, on apprend l'un de l'autre en parlant de nous, des choses comme ça, pour montrer tout simplement qu'on est là l'un pour l'autre.
Et vous, Hamid, vous avez mis combien de temps pour parvenir jusqu'ici? Du Soudan, de chez vous, du Darfour.
Ah oui, j'ai fait 2 ans de route pour être en France, dans la gang. Ça fait 2 ans que j'ai quitté le pays.
Vous avez fait affaire avec des passeurs. Combien ça vous a coûté, le périple?
Depuis le Soudan jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'Italie, ça coûte un peu cher. Mais j'ai essayé.
Combien?
De faire le boulot en Libye. J'ai fait 1 an de boulot en Libye.
Comme quoi?
Comme un magasinier. J'ai trouvé quelqu'un, un Africain, un Libyen, il m'a fait travailler dans un magasin. J'ai travaillé 1 an pour trouver la moindre des possibilités pour être en Europe, pour être en Italie. Et j'ai pu s'en sortir. Dernièrement, j'ai trouvé la possibilité, la moindre des possibilités. J'ai quitté la Libye et j'étais en Italie. D'Italie, j'ai fait l'Allemagne. Et d'Allemagne, j'ai fait la France.
Mais pourquoi la France?
Quant à moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vivre en France. Que j'ai des milliers, des amis qui vivent en France. Et j'espère que en France, je suis un peu à l'aise. Je suis un peu tranquille au milieu de mes amis.
Donc la France, c'est, pour vous, c'est le pays des droits de l'homme?
Je crois. Je crois que c'est le pays des droits de l'homme. Quant à moi, aujourd'hui, tout ce que je voulais est que d'être en paix, en sécurité, d'être heureux. C'est tout, j'ai pas besoin d'autre.
Mais la plupart de vos frères qui sont ici, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Vous voulez pas aller en Angleterre?
Oui, aujourd'hui, les majorités de mes amis qu'ils vivent dans la gang, ils ont vraiment envie de quitter pour l'Angleterre. Aujourd'hui, quant à moi, j'ai décidé de vivre en France. J'ai déjà fait la demande d'asile en France. Mais pas encore. J'ai des milliers d'amis qu'ils veulent quitter à l'Angleterre. Mais c'est un peu dur pour eux. C'est dur pour rentrer en Angleterre. Pour le moment, c'est impossible. Ils sont obligés d'être dans la jungle, de rester, de patienter dans la jungle. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais quant à eux, ils ont vraiment envie d'être en Angleterre, c'est leur choix.
Mais ce n'est pas le vôtre.
Non.
Et c'est compliqué quand on est comme vous et qu'on fait une demande d'asile. Combien de temps se passe-t-il ? Et y a-t-il des personnes ici dans la jungle de Calais qui vous font ce genre de propositions et qui vous accompagnent administrativement ?
Bah, y a beaucoup d'associations qui veulent vraiment faire quelque chose pour nous. Ils veulent nous aider pour atteindre notre but, notre rêve. Quant à moi, aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai déjà fait la demande d'asile en France. Et j'ai l'empreinte en Italie. De mon entrée en Italie, j'ai fait l'empreinte en Italie. Et pour le moment, j'ai les procédures diplômes. Et maintenant, je suis obligé de patienter 6 mois pour faire la procédure normale française.
Parce que vous auriez pu aussi vivre en Italie.
Ah oui.
C'est parce que l'Italie n'a pas voulu de vous que vous êtes finalement venu en France.
Bah oui. Parce que la vie en Italie, quant à nous, les Soudanais, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'être en France. J'espère que c'est un peu mieux. Mais c'est pareil. J'ai trouvé que c'est pareil. La France, l'Italie, c'est pareil.
Partout en Europe, sauf en Allemagne, au début, quand ils ont ouvert les frontières.
Bah oui. J'ai fait un an en Allemagne.
Et vous n'avez pas voulu essayer de faire la procédure en Allemagne?
Bah oui, j'ai fait en premier mois, j'ai fait la demande d'asile en Allemagne. J'ai vécu un an.
En faisant quoi?
Oui.
Et comment?
Bah, en Allemagne. Quant à nous, les Africains, les Soudanais, c'est très dur. Parce qu'aujourd'hui, la majorité d'Allemands sont des racistes. Ils n'aiment pas les Africains, ils n'aiment pas les Noirs. Tu n'arrives pas à trouver les papiers. Ils ne te donnent pas du papier, ni séjour, ni n'importe quoi. Seulement, ils vont te faire loger. Tu es à la maison et tu dors et c'est tout. Tu ne peux pas faire du travail, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. En plus de ça, il te prend comme un sauvage, comme un animal. Il traite les Africains très mal. Dernièrement, j'ai décidé de venir en France. J'espère que c'est un peu mieux que l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui en France, je me sens à l'aise. Je me sens un peu tranquille. Et j'aimerais bien vivre en France.
Et comment et où avez-vous passé la frontière entre l'Allemagne et la France?
Bah, j'ai fait par train, j'ai quitté Berlin pour être à Offenbourg. Il y a une ville de frontière avec la France, avec le Strasbourg. De Offenbourg, j'ai fait Strasbourg et je me trouvais en France. Tout facilement. J'ai pas
par le train?
Oui, par le train.
Parce que quand on arrive à Calais, il y a des policiers partout. C'est plus possible,
oui.
Maintenant.
Maintenant, c'est plus possible. Les policiers aujourd'hui, les CRS à Calais et dans la jungle, ils font des bêtises. Ils sont que pour déranger tout le monde. Ils nous dérangent chaque jour. Ils ne nous laissent pas à l'aise.
Ils vous dérangent comment? Ils font quoi?
Bah, comme aujourd'hui. Ils ont cassé tout nos maisons. Ils ont cassé tout. Ils ont effacé tout. Ils nous font des contrôles à chaque moment. 24 heures sur 24. Tu ne peux pas quitter la jungle et rentrer en jungle tranquillement. Tu ne te sens pas à l'aise, comme nous sommes des prisonniers. Ils sont autour de nous à chaque moment, à chaque temps. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il fait tout ça. Il essaye tout pour nous déranger, pourquoi? Aujourd'hui, nous, on a décidé de vivre dans la jungle. Quant à moi, aujourd'hui même, chez moi, au Soudan, je n'ai pas vu dans un truc pareil aujourd'hui comme la jungle. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai dit, je suis en France, je suis en Europe, et j'ai accepté de vivre dans la jungle. Mais pourquoi ils nous dérangent? Pourquoi ils ne nous laissent pas à l'aise?
Alors effectivement, il y a des quarts de policiers devant les entrées de la jungle.
Oui, ils sont partout autour de nous.
Le ministère de l'Intérieur dit que la raison principale d'évacuation de cette zone-là de la jungle, c'était justement les conditions de sécurité, de confort minimal pour vous qui n'étaient pas possibles et que donc ils vous offraient des conditions plus acceptable dans l'autre zone sud de Calais. Qu'en pensez-vous, vous? Parce qu'il y a certains de vos camarades qui ont été obligés de partir. Qu'est-ce qu'ils vous en disent?
Bah, quant à moi, je vois que c'est faux, c'est pas vrai. Quand aujourd'hui, dans l'époque où on était dans la zone sud, il y a des milliers de maisons et des milliers de gens qui vivent dans ces zones.
Et c'est encore plus grand qu'ici.
Encore plus grand qu'ici. On vit dans une grande paix. On vit tranquillement. On a une grande joie. On est heureux.
Vous n'aspirez pas à avoir plus de confort parce que là, on est dans votre chambre. Mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas la possibilité de faire la cuisine. Donc, si on vous proposait ça, vous l'accepteriez, vous, Amine?
Bah, s'il nous propose dans la jungle ou en dehors de la jungle?
Dans la jungle?
Dans la jungle. Mais où exactement? Nous sommes dans la jungle, on voit que nous sommes chez nous. On est tranquille, sans rien faire pour nous.
Mais il y a des abris qui sont mieux que cela, que ces petits morceaux de tente, de plastique.
J'espère pas.
Parce que c'est vous qui avez construit cet espace,
oui,
et qu'il est devenu le vôtre alors.
Oui, c'est nous qu'on a construit toutes ces maisons, tout cet espace. Et maintenant, quant à eux, aujourd'hui, ils nous obligent de rentrer dans les containers.
Et pourquoi vous voulez pas?
Bah, aujourd'hui, dans les containers, tu es obligé de faire l'empreinte avant d'entrer dans les containers. Tu ne vas pas recevoir des visites, pas des amis dans les containers. Ils vous mettent 12 personnes dans un container très serré. Pas de visites, pas de n'importe quoi. Tout est sécurisé et n'importe quoi. Bah,
comme des prisonniers.
Comme des prisonniers. Tu entres dans des conteneurs avec l'empreinte, ils sortent avec l'empreinte. Aujourd'hui, quand je suis chez moi, où je suis aujourd'hui, où je vis, par jour, je reçois des visites par jour. Je me sens à l'aise, je suis tranquille. Je suis comme chez moi. Mais dans les conteneurs, c'est impossible. Je vois que c'est une prison. C'est pas un lieu d'hébergement. C'est pas un lieu d'hébergement. C'est une prison, les conteneurs. Mais aujourd'hui, en dehors des conteneurs, nous sommes à l'aise. On vit tranquille. On est toujours ensemble avec des amis de différentes nationalités. Des réfugiés de différentes nationalités, aujourd'hui des Européens, des Français, des Anglais, des Italiens et de différentes nationalités. On est toujours ensemble, on passe tout notre temps ensemble. On est tranquille, on vit dans la joie, on est toujours heureux. C'est pour cela la seule raison qui me pousse de choisir de vivre en dehors des conteneurs.
Là, on commence à entendre de la musique. C'est des copains à vous qui font de la musique, là?
Oui. Ils font des musiques, ils font des métiers traditionnels. Ils essayent de faire tout.
Donc, les métiers traditionnels, ça peut être faire des chaussures à partir de pneus, faire du travail artistique. Oui. Vous, qu'est-ce que vous savez faire, Hamid?
Aujourd'hui, quant à moi, au pays, j'ai fréquenté à l'école, j'ai fait la primaire, j'ai fait mon lycée, j'ai composé mon baccalauréat. Et après ça, j'ai fait l'armée et tout ça. Mais aussi, j'ai un peu des métiers traditionnels. Mais c'est un peu dur de vous dire comment je sais pas, mais j'essaie vraiment de faire quelque chose de bien.
Vous savez coudre?
Bah oui.
Je vois que vous savez coudre en regardant votre chambre.
Oui.
Que vous êtes très doué pour coudre.
Oui, j'essaie toujours de les faire.
Même s'il n'y a pas beau, il n'y a pas de lumière ici. Mm-hmm. Heureusement, il y a les bougies. Hein.
Oui, il y a des bougies. Et avec ces bougies, je suis tranquille. C'est mieux que la lumière, l'électricité et tout ça.
Mieux.
Oui, mieux.
Parce que vous êtes optimiste.
Oui. Je me sens tranquille comme ça avec des bougies. Une vie tout simple, tranquille.
Quand vous êtes parti de chez vous au Darfour et que votre famille a décidé que vous alliez partir, j'imagine qu'ils ont, la famille, elle a beaucoup économisé. Vous êtes parti avec de l'argent donné par la famille.
Ben, c'est pas pareil. Hein. Parce que même chez nous, aujourd'hui, ma famille sont pas riches en tant que tels.
Non, mais ils ont mis toutes leurs économies, oui, j'imagine.
Oui, ils essaient de faire tout pour nous sauver. Et quant à moi aujourd'hui, ils ont essayé tout faire pour moi, pour que je dois construire une nouvelle vie. Ils ont économisé quelque chose. Ils m'ont fait déplacer du Soudan jusqu'en Libye. Ils ont un peu d'argent, ils m'ont donné pour déplacer avec tout ça, pour être dans un autre monde, un peu tranquille que Darfour, où il y a la paix mieux que le Darfour. Et j'étais en Libye, et après ça, j'ai décidé de faire des boulots, de travailler un peu. Pour se continuer, parce que même en Libye, c'est la merde. La Libye aujourd'hui, c'est la merde comme la Darfour, comme le Darfour. Chaque jour, il y a des batailles entre les terroristes et le gouvernement. Ça cause des milliers de morts. Il n'y a aucune sécurité. J'ai essayé de faire un boulot. J'ai fait un an de boulot. Pour se déplacer. Et enfin, j'ai réussi à quitter la Libye pour être en Italie.
Quand avez-vous vu votre premier mort, Hamid?
C'était au Darfour. Quand j'ai 16 ans. Une fois, j'ai 16 ans. J'étais en armée. J'étais en mission de bataille. En tournoi. J'étais au terrain. J'ai que 16 ans. J'ai vécu la mort.
Comment ça, vous avez été enterré?
Bah. C'est un peu compliqué. On peut dire. Ça va pas vous gêner, c'est que vous pouvez me demander, vous pouvez me poser une autre question. J'ai pas envie de parler de ça. Ça me choque vraiment. Je n'arrive pas à vous parler de ça.
Mais vous êtes bien vivant devant moi. Oui. Avec votre sourire, votre classe, votre élégance.
Oui. J'ai toujours espoir de vie. C'est ma famille qui m'a appris ça, de toujours garder l'espoir dans la vie, de toujours garder le sourire. Et j'essaie de le faire.
Donc la vie, c'est une chance ou c'est un combat?
La vie, c'est un combat. C'est pas une chance, c'est un combat. Je crois pas que la vie, c'est une chance, non. C'est un combat, et c'est tout.
Il y a des gens au Darfour qui pensent que vous êtes mort?
Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui pensent que nous sommes déjà morts depuis. Mais aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci que pas encore je suis vivant. Et j'essaie de vivre un peu plus pour faire quelque chose pour les autres. J'aimerais bien aujourd'hui essayer de faire quelque chose pour mes amis qui sont encore au Darfour, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, qu'ils vivent dans la mer, qu'ils vivent dans la mer, dans l'enfer. J'aimerais bien faire quelque chose pour eux.
Ce que vous voulez, c'est d'abord aider les autres.
Bien sûr. Tous mes rêves pour les moments présents, j'ai construit un rêve pour aider les autres et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers qui vivent dans l'enfer à cause des politiciens, de n'importe quoi. Même si je n'arrive pas à arrêter toutes ces bêtises qu'il a fait. J'aimerais bien quand même essayer de faire quelque chose pour eux, pour les faire sourire, pour les faire la joie, pour l'emporter, la paix.
Comment vous voyez le futur?
Comme le passé, ça va rien changer. Ça va rien changer, même dans le futur. On est obligé toujours de vivre dans ces merdes. Jusqu'à quand, je sais pas, mais ça va durer, ça va pas arrêter. Non plus.
Vous êtes triste aujourd'hui?
Bah oui. Aujourd'hui, je suis triste. Parce que. Ils m'ont obligé de quitter la gang. Pour être dans un foyer, en ville. J'aime pas quitter la gang.
C'est
peu choqué, mais je suis obligé.
Vous allez emporter quoi?
Mes souvenirs, mes petits souvenirs que j'en ai. Mais heureusement, j'aimerais vivre dans la jungle, ici chez moi. Si je me sens mieux qu'en ville, je ne vais pas quitter cette maison, cette place. Mais j'ai pas le choix.
La musique s'est arrêtée, mais peut-être ils vont recommencer alors.
Oui, il fait ça toujours. Tous les temps.
Pourquoi il y a autant d'hélicoptères ici?
Je sais pas, mais...
Tout le temps, hein?
Tous les temps. Il fait des contrôles, il fait
ouais, le bruit
les
des...
temps. Je sais pas pourquoi, mais... Tous les temps, il fait ça. Dans la journée, dans la soirée... Il tourne toujours. Il fait du contrôle. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, il y a sans arrêt le bruit des hélicoptères hein, qui tournent.
Les hélicoptères, ANER et la CRS tout près de nous. On est toujours comme ça. Ils nous dérangent à chaque fois, à chaque moment. Tous les temps.
Vous voulez pas nous emmener chez vos copains là qui font de la musique?
Bien sûr, avec c'est... plaisir. Vous voulez?
C'est de la musique d'où?
Soudanaise.
On y va. Merci Hamid. Nous allons continuer demain cette série sur Calais où vous pourrez entendre à la fois le témoignage et l'analyse de Sébastien Thierry du Pérou ainsi que des bénévoles qui travaillent en ce moment sur la jungle de Calais ainsi que l'analyse de la préfète du Nord-Pas-de-Calais. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Yves Lehors et Véronique Villa. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée.